France Culture.
Les nuits de France Culture. Une mémoire radiophonique.
Si vis pacem parabellum, certes. Et si l'on veut préparer la guerre pour désirer la paix, il faut, il fallait, il faudra connaître sa géographie. Rediffusion d'un opus de Planète Terre, diffusé pour la première fois sur France Culture le mercredi 26 mars 2008. Production Sylvain Kahn, avec Paul-David Régnier.
Bonjour à toutes et à tous. Comme chaque mercredi sur France Culture, vous avez rendez-vous avec votre intuition géographique. Planète Terre, cette semaine, met la focale sur l'un des usages les plus anciens de la géographie, la préparation et la conduite de la guerre. Au-delà des cercles militaires, cette fonction de la géographie est pourtant largement ignorée. Paul-David Régnier, notre invité de la semaine, fait partie des quelques rares géographes qui, dans un mouvement de revers, si j'ose dire, lève le voile sur ce savoir d'un point de vue universitaire. Il vient en effet de publier un surprenant et très intéressant dictionnaire de géographie militaire paru aux éditions du CNRS. La géographie militaire, c'est bien le sujet de Planète Terre cette semaine. Paul-David Régnier, bonjour et bienvenue en direct du studio 167 de la Maison de la Radio.
Bonjour.
Vous êtes agrégé de géographie et lieutenant-colonel. Jusque tout récemment, vous dirigiez le service d'analyse géographique à l'état-major des armées. Votre dictionnaire de géographie militaire est une entreprise pionnière. Elle n'est néanmoins pas totalement isolée, puisque votre collègue de la Sorbonne, Philippe Boulanger, a publié en 2006 une géographie militaire chez Ellipse. Dans l'introduction de votre dictionnaire, Paul-David Régnier, vous donnez une indication sur votre motivation à passer de la pratique à la théorie, du cercle professionnel au cercle universitaire et donc à l'exposition. Je vous cite « Plus que jamais, la géographie militaire, écrivez-vous, pour ne pas parler de l'institution militaire elle-même, a besoin que le monde universitaire se penche sur elle, se penche avec elle, excusez-moi, sur l'objet de sa pratique et les méthodes et usages qu'elle met en œuvre. Pourquoi ce besoin, d'ouverture et presque de dialogue, Paul-David Régnier ?»
Alors, il y a plusieurs choses. La première, c'est que le monde civil et le monde militaire sont quand même assez séparés. Et que, en revanche, les interactions entre ces deux milieux sont souvent porteuses d'enrichissement mutuel. Et puis parce que pendant presque 20 ans, même presque 30 ans, ce sont des mondes qui se sont assez peu, rentrés en communication. Et donc, lorsqu'on m'a proposé de rentrer au ministère de la Défense alors que j'étais universitaire, eh bien, j'ai sauté sur l'occasion et du coup, j'ai essayé d'enrichir la pratique ou l'analyse de la pratique qu'ont les militaires de l'espace, de ce que moi, comme géographe universitaire, je pouvais apporter. Et inversement, j'ai évidemment beaucoup reçu en retour de l'expérience des militaires et de leur approche du terrain.
Cette approche du terrain dont vous parlez en tant que géographe, quand on est militaire, comment ça se passe? Est-ce que c'est l'utilisation d'un raisonnement géographique? Est-ce que c'est l'utilisation d'instruments et de données géographiques? Qu'est-ce que vous mettriez, si j'ose dire, en premier lieu dans cette expérience et cette pratique qui a duré plusieurs années, puis qui est assez inédite, hein? Enfin, je me demande même si vous n'êtes pas le seul de votre espèce à être à la fois agrégé de géographie et lieutenant-colonel et avoir fait de la géographie au sein des armées pour les armées.
Alors, il y a d'autres géographes quand même dans les armées, il y a des géographes, les militaires, un certain nombre d'entre eux suivent des cursus en géographie, mais ce sont plutôt des cursus techniques, hein, de géographie au sens où l'IGN l'entend, donc ce sont de très grands cartographes ou de très grands ingénieurs cartographes.
Donc l'Institut de Géographie Nationale.
Absolument. En revanche, des géographes au sens universitaire du terme, là, il y en a effectivement relativement peu. Et des agrégés, je ne crois pas qu'il y en ait. Mais,
donc, si je vous suis bien, Paul-David Régnier, ça veut dire que ce pourquoi vous avez été recruté à l'époque, c'était donc pour apporter non seulement l'utilisation d'instruments, d'outils ou de techniques qu'on rassemble aujourd'hui dans ce vaste ensemble que sont les systèmes d'information géographique, mais c'était également, et peut-être même davantage, pour apporter justement, je ne sais pas comment dire, une dimension conceptuelle, l'apport de la démarche et du raisonnement, c'est ça?
C'est ce que ça a permis. Je ne suis pas sûr que ce soit exactement l'idée qui était derrière au départ, mais finalement, c'est ce à quoi l'institution militaire d'un côté et moi de mon côté, nous sommes arrivés à construire.
Ça, c'est sûr. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner, pour que ça soit un peu plus concret pour nous, parce que là, on est, si j'ose dire, on est un peu en plein exotisme pour les géographes ou les amateurs de géographie qui nous écoutent. Est-ce que vous pouvez donner un exemple concret ou développé comme ça, un point sur lequel on puisse bien comprendre cette espèce d'apport mutuel dont vous parliez à l'instant?
Alors, moi, je vais essayer de faire simple et pas visuel, parce que nous sommes à la radio.
C'est
donc on ne pourra pas montrer de carte.
Le pouvoir de l'évocation des mots.
pour donner un exemple, l'analyse géographique, telle que je l'ai pratiquée pendant un certain nombre d'années, a consisté à aider les militaires à interpréter l'espace dans lequel ils menaient des opérations. Si je prends par exemple le cas de l'Afghanistan, c'est un bon exemple.
Très actuel, qui
plus est. Et très actuel de surcroît, et pour de nombreuses années encore, je le crains. L'analyse géographique, c'est pas simplement contenter de décrire les montagnes, les plaines, les cours d'eau, le type de végétation, bien que tout ça soit évidemment très important, a permis aussi de faire comprendre la façon dont les sociétés rurales comme urbaines, en Afghanistan, utilisaient l'espace, et ce qui permettait, à contrario, de différencier en termes de mouvements, par exemple, de déplacement de population, ces mouvements, d'autres mouvements qui étaient là, en revanche, plus insurrectionnels, qui étaient les mouvements que pouvaient avoir les membres d'Al-Qaïda ou les talibans dans la zone. Et donc, en analysant la façon dont les gens se déplaçaient et occupaient l'espace, on pouvait, à contrario, essayer de discriminer certains mouvements qui, du coup, ne rentraient pas dans cette catégorie. Donc, ça peut avoir, à un moment ou à un autre, un aspect relativement décisif. En outre, la capacité d'une unité à produire des cartes, c'est-à-dire des représentations en deux dimensions, parfois même en trois dimensions, mais enfin surtout en deux dimensions, d'une réalité conflictuelle, permet, dans le cadre de la prise de décision de niveau stratégique, d'éviter bien de longs discours et d'offrir une vision assez synthétique de l'ensemble des problématiques que connaît une portion d'espace à un moment donné. Donc c'est tout le travail consistait pour moi à représenter en partie la réalité sous une forme cartographique pour aider à la prise de décision.
C'est intéressant ce que vous dites à l'instant parce que dans votre dictionnaire, hein, donc qui est organisé, je le signale en passant, comme un dictionnaire simple, c'est-à-dire vous avez des entrées par ordre alphabétique. Hein, bon, je le dis pour ceux qui nous écoutent et qui se demandent si ça vaut le coup de s'y plonger, au sens est-ce que c'est compliqué ou non. Non, c'est vraiment très agréable à lire. On peut être intéressé plus ou moins par tel ou tel article, mais au moins, voilà, hein, c'est une entrée très simple par ordre alphabétique. Mais ce que je voulais dire, c'est là vous parlez beaucoup de la carte, c'est l'exemple que vous donner et vous consacrez une longue notice à l'entrée GPS qui a pu donner l'impression, notamment quand on regarde des opérations militaires dans les journaux télévisés, que la carte était devenue un objet has-been ou peut-être non efficace. Et dans cet article, ce frère de ma part, vous indiquez au contraire que finalement, le GPS a rendu l'utilisation de la carte et de la cartographie encore plus précieux que avant l'existence du GPS, qui finalement peut fragiliser, les armées qui peuvent les utiliser.
Il faut...
Est-ce que vous pouvez expliquer ça? Parce que ça a l'air d'un paradoxe, c'est très déroutant.
Alors en fait, ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est que, enfin c'est au moins comme ça que je l'interprète, c'est que d'abord le GPS est un outil militaire au départ. Il avait pour fonction...
Donc le GPS, qu'est-ce que ça veut dire déjà exactement?
Global Positioning System. Donc c'est un système qui est c'est composé d'un récepteur et d'un émetteur. L'émetteur se trouve en orbite géostationnaire, donc c'est une flopée de satellites, et puis un récepteur qui lui est en position, qui est détenu par un individu, cette petite taille, hein, tout le monde aujourd'hui en a, enfin tout le monde au moins en a vu un jour dans un véhicule ou sur un marcheur. Et donc ce récepteur reçoit la position qui est la sienne au moment où il consulte le GPS. Donc c'est une création militaire. C'est les militaires qui avaient besoin d'avoir un outil qui leur garantissait une position géographique fiable, avec une précision alors qui varie de 10, de 20 mètres, de quelques centimètres, peu importe, mais donc, c'était nécessaire.
Position géographique au sens des coordonnées.
Des coordonnées géographiques. Et c'est vrai que c'était une culture qui, la culture des coordonnées, a été très très présente dans les armées à un certain moment, puis qui avait un peu disparu, parce que les coordonnées, ça a l'air toujours compliqué, il y a des chiffres, des systèmes de projection, tout ça, c'est pas simple du tout. Et l'arrivée du GPS, dans un premier temps, a donné le sentiment qu'on allait pouvoir finalement se passer de la carte, puisqu'on savait exactement où on était. Et puis, petit à petit, on s'est rendu compte que l'utilisation du GPS aidant, on avait quand même besoin de comprendre dans quel environnement on se trouvait. Donc le fait d'avoir une position fiable, c'était important, mais il est encore plus important de savoir ce que l'environnement dans lequel cette position se trouvait. Et donc du coup, d'une certaine manière, le GPS a entraîné un regain d'intérêt pour la cartographie et pour la donnée géographique. D'abord parce que le GPS donnait des coordonnées, alors qu'avant c'était compliqué à déterminer, c'est devenu très simple à déterminer, il suffisait de lire. Et du coup, comme on a besoin quand même de comprendre son environnement quand on a sa position, eh bien du coup, on reporte beaucoup plus facilement à une carte.
Par rapport à ça, il y a une entrée que j'ai trouvée, là aussi, comment dire, assez surprenante et très intéressante, c'est celle que vous consacrez à l'infanterie, et que j'ai envie de mettre en parallèle avec celle que vous consacrez à la fameuse carte d'état-major. Hein. Et vous expliquez que finalement, ces fameuses cartes au 1/50 millième, celles qu'on a tous eues sous les yeux quand on va à l'IGN ou dans n'importe quelle station-service et qu'on a besoin d'avoir une carte de la région où on se trouve, la carte au 50 millième correspond finalement, dites-vous, à ce qui peut être appréhendé par un fantassin, par l'espace qui peut être appréhendé par un fantassin en une semaine, c'est ça ?
En une journée. Oui, c'est ça. Enfin, c'est-à-dire que c'est une découverte pour moi. Enfin, je veux dire, j'avais jamais réfléchi aux différentes échelles de cette manière-là. Mais en pratiquant cette géographie au service des armées, je me suis rendu compte que finalement la représentation spatiale était liée à l'usage qu'on voulait faire de l'espace. Et les systèmes d'armes, l'infanterie est un système d'armes comme un autre, au même titre que l'aviation, que les blindés, que les transmissions, ce sont des systèmes d'armes, avec une composante humaine évidemment essentielle, que les systèmes d'armes étaient producteurs d'espace en fait. C'est-à-dire que ils généraient les outils leur permettant d'assurer le contrôle spatial ou la maîtrise spatiale de leur environnement. Et que du coup, les échelles étaient liées à la capacité de ces systèmes d'armes. L'infanterie, c'est on dit traditionnellement dans les armées que c'est l'arme des 300 derniers mètres. Donc elle a besoin d'une certaine précision en termes de données géographiques. Quand vous êtes un pilote d'hélicoptère, le 50 millième, vous allez devoir changer de carte assez régulièrement. C'est pas pratique dans un hélicoptère quand on pilote. Donc du coup, vous allez préférer le 100 millième. Et puis après, si vous êtes un pilote de chasse ou un pilote de transport, eh bien vous allez préférer des échelles qui couvrent des espaces plus grands parce que votre rayon d'action est plus important. Et donc vous allez être au 250 000 ou au 500 millième. Et la nature des informations qui sera apportée sur cette carte sera pas la même. C'est-à-dire que le pilote, lui, va attacher une grande importance à tout ce qui est bâti, élévation, donc ligne à haute tension, câble, etc. Alors que pour le soldat d'infanterie, finalement, c'est une dimension qui compte moins.
Et pourtant, pour le soldat d'infanterie, vous dites que le combattant ne peut pas être comme ça muni d'une carte qui regarderait en permanence, et que donc finalement, la notion d'espace perçu, qui est une notion relativement récente dans la géographie universitaire, qui est liée à la géographie culturelle, donc cette notion d'espace perçu ou d'espace vécu, d'une certaine façon, vous l'avez découverte ou redécouverte en réfléchissant à l'apport de la géographie pour l'infanterie.
Et bien en fait, je me suis rendu compte que le modèle de la carte, c'est la carte au 1/50 millième, donc une carte pour l'infanterie essentiellement. Et je me suis rendu compte qu'au fond, la connaissance ou le vécu que le fantassin avait de l'espace pouvait tout à fait se passer de la carte. C'est-à-dire que c'est un peu comme si on avait un modèle, l'archétype de la carte, et puis en même temps lié à un système d'armes, à une pratique, et qu'en fait, dans la réalité, le fantassin n'a pas tant besoin que ça de la carte, il va surtout pas l'utiliser au moment de la phase de combat, qui est ce pour quoi il a été entraîné et formé. Donc, d'une certaine manière, il y a la carte au 50 millième, bien que l'archétype, encore une fois, de la carte, finalement, correspond peut-être pas tant que ça à un vrai besoin du fantassin. Elle est utilisée à d'autres niveaux, en fait. Hein, c'est des questions de responsabilité, c'est-à-dire que ça sera plutôt au niveau d'un chef de section, d'un capitaine commandant une compagnie, que la carte au 50 millième lui donnera l'instrument pour conduire sa manœuvre. Mais c'est moins le fantassin, en fait.
Tout à l'heure, Paul-David Régnier, vous disiez, lorsque vous avez un peu présenté votre démarche, vous avez dit la géographie militaire, ça sert évidemment à cartographier, prendre en compte ou appréhender les éléments, on va dire, du milieu naturel. Mais est-ce que c'est si évident que ça? Vous développez, vous expliquez, vous nous apprenez qu'il existe quelque chose qui s'appelle l'IPB, si je vous lis bien, Intelligence Preparation of the Battlefield, donc vous voudrez bien traduire si ça ne vous ennuie pas.
Préparation au renseignement du champ de bataille. Voilà.
Qui laisse à penser que ce n'est pas si évident que ça.
Alors, effectivement, il y a dans les... Enfin, traditionnellement, il y avait un peu une surévaluation de l'impact de l'environnement physique dans la conduite de la guerre. Et finalement, surtout, alors je pense que ça a été vrai de toutes les guerres, mais on s'en est aperçu dans les derniers conflits, disons depuis les Balkans, que d'autres dimensions comptaient au moins autant que la dimension simplement physique, c'est-à-dire les grandes lignes de relief, la végétation, que un certain nombre de marqueurs qui peuvent être spatiaux, qui peuvent être sociaux, culturels, cultuels, jouaient aussi avaient une importance fondamentale dans la façon dont les sociétés rentraient en conflit. Et du coup, c'est vrai que l'IPB, donc la préparation renseignement du champ de bataille, elle c'est une méthode hein, de lecture du terrain, d'analyse du terrain au sens large, et qui permet quand même de d'intégrer l'ensemble de ces éléments en termes de facteurs. Alors ça peut être des atouts ou une contrainte pour soi, pour les forces amies, comme on dit, ou pour l'ennemi, ou pour l'opposition. Et donc, du coup, ça permet d'anticiper les mouvements et l'usage qui va être fait d'un espace géographique. Si je peux me permettre de rajouter quelque chose, c'est que l'une de mes découvertes, si tant est que ça en soit une, enfin, en tout cas, ça l'a été pour moi, c'est que, au fond, sur un plan strictement géographique, l'espace géographique, on a tendance à le percevoir comme un décor, et puis la guerre comme le centre de l'action. Et je me suis rendu compte que, dans bien des cas, l'espace géographique était un acteur à part entière, au même titre que les populations civiles, tel ou tel mouvement insurrectionnel, ou telle guérilla, telle ou telle armée, et que finalement, ça devait être pris en considération comme tel. Comme un acteur, pas comme un décor.
Vous dites par rapport à ça quelque chose qui est très très intéressant dans l'entrée que vous consacrez à la géographie militaire américaine. Hein. Vous avez comme ça plusieurs pages qui sont regroupées sous un grand chapeau géographie militaire et puis que vous déclinez en sous-entrée. Et vous dites, à un moment donné, vous écrivez « La géographie culturelle, l'analyse spatiale des sociétés, pourtant particulièrement pertinente dans le domaine militaire, et vous venez de nous le dire, semble ne pas avoir influencé les travaux de la géographie militaire américaine. »
C'est vrai qu'on rencontre dans les publications américaines assez peu d'éléments sur la dimension sociale ou culturelle des espaces. Curieusement, alors qu'ils sont très productifs, qu'ils ont développé des outils très performants d'analyse spatiale, c'est pas cette dimension-là qui est le mieux pris en compte par la géographie militaire américaine. Et donc, du coup, il me semble que c'est une voie que la géographie militaire française pourrait explorer pour être complémentaire, d'une certaine manière, de l'approche américaine.
Militaire donc, française, c'est également le cas chez les Britanniques. Je vous aurais posé la question de toute façon.
Hein. Alors, chez les Britanniques,
même si on n'était pas aujourd'hui.
Effectivement, chez les Britanniques, on peut le dire, c'est la dimension culturelle et sociale des espaces est mieux pris en compte, hein. Même si l'influence américaine reste grande. Hein.
Donc ça, c'est un point de... On peut parler d'un point de convergence ou un point commun entre la culture militaire britannique et la culture militaire française.
Ça pourrait être un point de convergence. Je suis pas sûr qu'on en soit, ça soit aussi développé que ça, les relations en la matière. Ne serait-ce que parce qu'il y a assez peu de géographes français qui s'occupent de géographie militaire. Donc maintenant, au niveau des états-majors, les échanges existent, Dieu merci. Et donc, mais ça n'a pas été identifié comme un point de convergence. Mais effectivement, ça pourrait l'être. L'approche, c'est sûr, l'approche de l'espace n'est pas le même entre les pays de la vieille Europe et les États-Unis.
Cette différence sur laquelle vous revenez à plusieurs reprises, hein, y compris dans les entrées, dans l'entrée quartier, par exemple, quartier au sens de, non pas de quartier, mais au sens de quartier de ville, hein, c'est quelque chose qui a l'air important et qui semble doublement surprenant, parce que comme vous le signalez dans cet article sur la géographie militaire américaine, la géographie américaine tout court, la géographie universitaire se caractérise pourtant dans la géographie d'aujourd'hui comme étant parmi les plus diversifiées, les plus à la pointe, les plus ouvertes sur tout un tas de réflexions qui sont, on va dire, très dynamiques et interdisciplinaires. Donc, vous soulignez ce paradoxe. Et par ailleurs, vous indiquez également que la géographie militaire comme savoir et comme pratique est extrêmement développée au sein de l'état-major et de l'armée américaine. Donc, si vous me permettez de chercher à approfondir cette question, comment ça s'explique ça? Parce que là, évidemment, bon, on parle de ça aujourd'hui, on vient de fêter, si j'ose dire, c'était une triste célébration, le 5e anniversaire de l'invasion de l'Irak par les États-Unis et leurs alliés. Et ce que vous dites donne le sentiment qu'on a peut-être là un peu une clé sur la manière ou sur les raisons pour lesquelles l'armée américaine s'embourbe. Ou est-ce que j'extrapole?
Vous extrapolez peut-être un peu. En fait, c'est vrai que... alors, je pense qu'il y a toute une série de facteurs qui expliquent l'échec américain en Irak. Enfin, encore qu'on peut discuter de la notion d'échec, mais enfin, en tout cas...
Moi, j'ai parlé d'enlisement.
D'enlisement, voilà, en tout cas, des forces américaines en Irak. Et la perception de l'espace irakien en tant qu'espace... construit par une société, utilisé par une société, transformé par une société, a peut-être pas été à la hauteur de ce que la géographie universitaire américaine aurait été en mesure d'apporter comme analyse. Maintenant, je pense que une fois sur place, hein, je pense que les difficultés des Américains tiennent pas à leur mauvaise compréhension uniquement leur mauvaise compréhension de l'espace, en tout cas.
Vous voulez dire qu'il ne faut pas trop prêter à la géographie?
Il faut pas trop prêter, c'est absolument.
Ça, ouais, bon. Absolument. Et ça, vous le dites d'autant plus, Paul Lavernier, que vous-même, dans le cadre de vos fonctions, donc vous avez donc dirigé ce service géographique à l'état-major des armées, vous avez été amené à aller sur plusieurs théâtres d'opération. Pour y faire quoi exactement?
Alors,
d'opérations françaises.
D'opérations françaises ou multinationales, hein, donc dans un cadre de l'Union européenne ou de l'OTAN. Ces missions, elles consistaient essentiellement à apporter un appui. Alors, ça pouvait être un appui un peu technique, c'est-à-dire qu'on mettait en place des systèmes d'information géographique avec des données qui étaient jugées pertinentes pour la conduite de ces opérations. Et puis, ça pouvait être des missions d'analyse géographique au sens propre, donc au profit d'un état-major, de niveau opératif, c'est-à-dire, enfin bref, donc sur le théâtre directement.
Et vous pouvez donner, si c'est possible, un exemple concret, disons, pour illustrer votre propos.
Moi, j'ai été amené à travailler au profit de l'Union européenne dans le cadre de la mission à Kinshasa, à l'été 2006. Un des volets de mon travail a consisté à fournir une analyse spatiale pertinente enfin du moins que j'espérais pertinente.
C'est ce qu'on vous demandait.
C'est ce qu'on me demandait. De la ville de Kinshasa, de la façon dont on pouvait se déplacer dans Kinshasa, agir dans le cadre des actions civilo-militaires, et puis interpréter aussi, enfin lire la façon dont les acteurs, en l'occurrence la population de Kinshasa, le pouvoir, utiliser cet espace, est-ce que ça pouvait nous aider à décrypter leurs intentions, leurs objectifs. Donc c'était ça permettait par exemple de dire bah voilà, dans le cadre d'une émeute, on a remarqué sur les 5 dernières années que les émeutes à Kinshasa, elles prenaient presque toujours ces itinéraires. Eh bien, ces itinéraires, si jamais on a de nouveau une émeute, et c'est ce qui s'est produit, il serait opportun de ne pas les emprunter et en même temps d'observer ce qui s'y passe, parce que c'est là que les choses vont se décider. Voilà.
Effectivement, vous prenez l'exemple, vous nous donnez l'exemple, et je vous en remercie, de Kinshasa, qui est donc une grande ville. Et c'est tout à fait frappant, me semble-t-il, en tout cas c'est comme ça que moi je l'ai lu, comment dans les articles que vous consacrez, notamment, il y a des entrées quartier, il y a une entrée de ville, sans jeu de mots, qui est celle de Sarajevo, mais à plusieurs reprises, notamment dans Insurrection et Contre-insurrection, vous parlez en expliquant pourquoi vous avez pris cette entrée là de ce qu'on appelle par ailleurs des guérillas urbaines. Et moi, j'avais envie de vous poser une question. On a le sentiment, comme ça, à vous lire de manière, je dirais, un peu transverse, qu'il y a dans les conflits ou dans les guerres des phénomènes forts d'appropriation, voire de détournement d'espace ou de territoire qui sont détournés par rapport à leur usage originel. Et vous développez un peu ça, me semble-t-il, dans l'exemple de Sarajevo, qui est une entrée à elle toute seule.
En fait, ce dont je me suis aperçu, c'est que, au fond, la guerre ou les conflits, hein, guerre civile ou entre États, était une pratique sociale, en fait, pas tout à fait comme les autres, mais c'est une pratique sociale. Et comme toute pratique sociale, elle entraîne une modification, une utilisation des espaces et donc un détournement de ces espaces. Dans le cadre de Sarajevo, il est très clair que les banlieues, qui n'étaient pas des espaces centraux, finalement se sont trouvés devenir, du fait de la localisation de la ligne de front, hein, dans ces espaces périphériques, sont devenus presque le cœur de la ville, puisque c'est là que se faisaient les échanges, et puis c'était les espaces qui étaient les objectifs de conquête d'une partie ou d'une autre part, ou de la partie adverse. Et inversement, le centre-ville, lui, s'est trouvé marginalisé en quelque sorte, parce que la ville ne fonctionnait pas en temps de guerre comme elle fonctionne en temps de paix. Donc forcément, certains espaces changent de valeur, changent de potentiel, et ça indique bien que, au fond, c'est bien la pratique sociale qui fait les espaces et pas l'inverse.
Et cette remarque, me semble-t-il, on la trouve aussi dans l'entrée que vous consacrez à la notion d'infiltration. Vous allez, si vous voulez bien, peut-être nous rappeler très brièvement ce que c'est qu'une infiltration, même si on en a tous peut-être une idée pour avoir vu un certain nombre de films. Bien que vous indiquiez à plusieurs reprises que la guerre, c'est pas comme dans les films, hein. Ça, j'ai bien compris. Mais dans l'entrée, d'infiltration, vous indiquez que ça se fait toujours par des espaces que vous appelez marginaux. Et donc là aussi, tout d'un coup, des espaces habituellement marginaux se trouvent à avoir un rôle absolument central.
Absolument. Donc l'infiltration, c'est le fait de pénétrer dans un territoire dans lequel on n'est pas censé donc pénétrer, et de la manière la plus furtive possible.
Et quand vous dites on n'est pas censé, c'est-à-dire qu'on n'a pas demandé la permission.
On n'a pas demandé la permission de le faire, voilà.
Au gouvernement qui est souverain sur cet espace.
Donc c'est donc une sorte de violation de territoire. Et bon, l'une des conditions de la réussite de ce type de mission, c'est effectivement de le faire de la manière la plus discrète possible. Par conséquent, on va privilégier certains types d'espaces qui permettent cette furtivité, au détriment d'autres qui seraient peut-être qui permettraient de pénétrer dans le territoire de manière beaucoup plus rapide, mais en revanche beaucoup plus voyante. Donc finalement, chaque mission militaire, pour élargir le propos, chaque mission militaire, que ce soit prendre une ville, contrôler un territoire, exfiltrer une équipe, eh bien génère sa propre géographie. Il y a des lieux qui seront plus favorables que d'autres à ce type de mission.
Bon, il y a encore tout un tas de choses formidables dont on aimerait bien parler, mais malheureusement, le temps passe assez vite. Hein. On pourrait parler de la notion de frontière. Il y a des paragraphes assez, des entrées tout à fait délicieuses, ou en tout cas intéressantes sur défilé, courbe de niveau aussi. Juste si vous pouvez dire un tout petit mot, ça sera peut-être le dernier, sur la manière dont les soviétiques, si je vous ai bien lu, ont inventé une nouvelle manière de cartographier les courbes de niveau.
Effectivement, les militaires soviétiques, les géographes militaires soviétiques ont, sur leur cartographie au 50 millième, mis des courbes de niveau dont l'équidistance diminue au fur et à mesure qu'on se rapproche de la ligne de crête. Ça correspond à un usage qui veut que les militaires, lorsqu'ils se déplacent le long des crêtes, soient cachés par les crêtes, ce qu'on appelle une crête militaire, et donc du coup à augmenter la précision de sa donnée topographique quand on s'approchait de ces lignes de crête pour permettre un usage optimum de la carte par les militaires russes.
Bon, et de même, on apprend aussi à l'entrée défilé que c'est sans doute un des lieux géographiques qui rend les aéronefs le plus vulnérables, car le plus accessible aux missiles sol-air. J'espère que je ne me suis pas trompé. Donc Paul-David Régnier, en tout cas, je vous remercie vraiment beaucoup pour vos précieux éclairages.
Je vous remercie.
Et donc, je renvoie tous nos auditeurs qui voudraient aller plus loin au dictionnaire de géographie militaire que vous venez de publier aux édition du CNRS.
C'était Planète Terre par Sylvain Kahn, réalisation Dominique Briffaut avec Paul-David Régnier. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 26 mars 2008.